Déserter. Déserter l'ingénierie. Déserter l'industrie, la finance. Déserter la société néolibérale. Déserter le capitalisme. Déserter pour lutter. Le collectif Les Déserteuses s'adresse aux ingénieurs, techniciens et techniciennes, chercheurs et chercheuses, et à toutes les personnes qui doutent, questionnent, critiquent les implications de leurs activités. Voici le témoignage de Camille, qui nous parle de son parcours dans l'ingénierie et de son rapport à la désertion. Camille a 33 ans, il a fait une prépa puis une école d'ingénieur et a exercé pendant plusieurs années, d'abord dans des labos, puis dans des entreprises privées.
Mes parents sont arrivés en Europe dans les années 70, d'abord en Belgique. Ils ont fait des études là-bas. Mon père, il a. Donc, ils ont fait des études là-bas et puis ils ont assez rapidement déménagé dans le sud de la France, là où moi je suis né, et puis là où j'ai grandi et là où ils habitent toujours. Et mon père, du coup, lui, il a fait des études, il a bossé dans une clinique. Et ma mère, elle a bossé dans. Elle avait un diplôme qui avait rien à voir. Puis elle a bossé dans l'informatique pendant toute sa carrière. Le reste de ma famille aussi a fait des études. Et moi, bah, je sais pas, en gros, j'étais plutôt à l'aise dans tout ce qui était maths, physique, chimie, tout ça. Je sais pas, il n'y a pas vraiment de raison particulière qui m'ont amené à me dire je veux faire un truc des études d'ingénieur. Parce que je pense. Vraiment, quand j'avais 16, 17, 18 ans, c'était pas hyper clair les raisons pour lesquelles j'ai voulu faire une prépa puis après une école d'ingé, mais en tout cas quand j'étais dans ce cursus-là, j'ai eu l'impression que j'étais au bon endroit, quoi. Ni que c'était vraiment un truc qui me passionnait dès le départ ou avant même dans lequel je me projetais beaucoup, ni non plus quand j'étais à l'intérieur, j'avais pas non plus l'impression que c'était une erreur ou que je m'étais trompé dans le ouais que je m'étais trompé dans mes choix. J'ai eu l'impression pendant longtemps que c'était à la fois le fait d'être ingénieur, un truc qui me correspondait, et en même temps, qui dans les deux sens, quoi, qui m'a aussi beaucoup forgé. Donc j'ai l'impression que c'était relativement, j'allais dire naturel, pas naturel, mais fluide, quoi. Je dirais après, au moment de l'orientation, après le bac, quoi, c'est à ce moment-là qu'on se pose les. Enfin, ouais, qu'on se pose les. Je me suis posé les grandes questions sur qu'est-ce que j'ai envie de faire, quoi. J'avais l'impression à ce moment-là qu'il n'y avait pas 10 000, enfin, beaucoup de pistes, mais en même temps, assez rapidement, l'intuition m'a porté vers ce truc-là, quoi. Donc c'était, ouais, voilà, plutôt autour du bac. Après, une fois en prépa, j'ai compris que c'était ça que je voulais, enfin, j'ai compris que c'était ça que je voulais faire. J'ai compris que c'était vers cette voie que j'allais, quoi. Je sais même pas si c'était vraiment clair pour moi, ouais, à stage, 18, 19 ans, c'est pas hyper clair. Je pense qu'à partir de l'école d'ingénieur, c'est déjà plus clair, c'était plus clair dans ma tête. Mais avant ça, en fait, j'avais tendance à me projeter. Puis je pense qu'on fait beaucoup ça en prépa. Je réfléchis à l'école d'ingénieur, quelle école d'ingénieur je vais choisir. Donc finalement, moins le fait que ce soit question de former des ingénieurs que le fait d'être dans une école. Je veux dire par là qu'on réfléchit plus au lieu dans quelle école je vais me retrouver, plutôt que finalement la finalité de à quoi ça va servir ou quel métier je vais exercer derrière. Du coup, ouais, j'ai été diplômé en 2012, donc je suis rentré en école d'ingé en 2008, donc ça fait déjà, ouais, ça fait presque 15 ans, quoi. La prépa, c'était super dur, j'ai énormément bossé. Je m'étais vraiment mis en mode machine dès les premières semaines en me disant, ouais, il va falloir bosser comme un barjot. L'objectif, c'est de les concours et tout, pas de problème. Moi, je me suis mis vraiment dans ce truc de bosser comme un barjot. On se faisait bah, presque pas victimiser, mais c'était hyper dur vis-à-vis des profs qui nous poussaient beaucoup. Psychologiquement, c'était pas facile. C'est une machine à broyer, je pense vraiment. Les classes prépa, c'est pour. Mais je l'ai quand même assez bien vécu, mais j'ai fait que. Je l'ai assez bien vécu, ouais. Malgré tout. L'école d'ingénieur, c'était beaucoup moins dur déjà. Quel souvenir je garde de l'école d'ingénieur? C'était une bonne période. C'était une bonne période. C'était assez agréable. On rencontrait beaucoup de gens. Je me suis fait pas mal de potes, quelques amis avec qui, ouais, 10-15 ans après, je suis toujours en contact et qui sont parmi mes amis les plus proches. Il y avait une diversité de gens qui étaient assez... Enfin, comment dire? Une diversité de gens, oui et non, quoi. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont plutôt classe socio-professionnelle sup, quoi. Ça, c'est clair. Mais après, ce dont je me rends compte, c'est que 10-15 ans après, en fait, chacun, chacune est parti dans des directions très différentes. Et c'est en ça que je veux dire qu'on est finalement assez différents au bout d'un certain temps. Mais bon, c'est malgré tout, en école d'ingé, on est quand même très... Il y a une grosse homogénéité. C'est ensuite que qu'on prend chacun, chacune des trajectoires très différentes. Mais effectivement, ouais, pendant l'école d'ingé, bon, on est tous un peu pareil, quoi. Pendant l'école d'ingénieur, assez rapidement, j'ai mieux compris c'était quoi juste la finalité de ce pourquoi on était formé. Il y avait un discours qui était assez clairement porté par l'école, c'est-à-dire par la direction de l'école et aussi mis en œuvre par les profs, de la raison des raisons pour lesquelles on était formé, quoi. Donc il y avait beaucoup ce discours de la création d'entreprise, l'entrepreneuriat c'est important, l'innovation c'est important, le développement économique c'est important. Toutes ces notions-là étaient assez claires et ils considéraient les élèves ingénieurs et les ingénieurs comme étant les personnes qui étaient là pour mettre en œuvre ces grands principes, quoi. Le développement économique du pays, enfin tout ça, quoi. L'innovation, c'était vraiment un truc dans mon école qu'ils n'arrêtaient pas de sortir à toutes les sauces. Et puis il y avait beaucoup d'immersion aussi, il y avait presque. Il y avait entre un et deux stages. Enfin, il y avait un stage en général de fin d'année, quoi. Le stage ouvrier, le stage assistant ingénieur, le stage ingénieur de fin de cursus, quoi. Mais il y avait aussi des stages, des immersions de 1 mois sur l'ensemble du cursus, on en faisait 3 ou 4. Donc, ce qui fait qu'en combinant les stages plus ces immersions-là, on passait beaucoup de temps en entreprise, soit en entreprise, soit en laboratoire. Et du coup, c'était quand même assez. On avait une vision assez claire de ce pourquoi on était formé au final. De ce point de vue-là, si on est dans l'optique que voilà, que l'école d'ingé est là pour remplir une mission de former des ingénieurs, pour le coup, je peux pas trop leur reprocher de mentir sur la marchandise, quoi. On nous envoyait pas. Dans des trucs genre audit, stratégie, finance, ou des trucs où on peut se dire que ce n'est pas vraiment la vocation des ingénieurs. Là, pour le coup, ils nous formaient pour être dans l'industrie et dans les laboratoires, quoi. Ça, c'était. Il n'y avait pas d'ambiguïté sur ça, quoi. Formé un peu tout seul sur le truc de il y a aussi la problématique du les problématiques environnementales et la problématique du dérèglement climatique sur laquelle il faut qu'on bosse. Et du coup, moi, ce que j'avais compris de cette histoire de innover, développer des technologies et tout, c'est que je me suis dit, pour répondre en fait à ces problématiques environnementales et de dérèglement climatique, il faut qu'on y apporte des solutions techniques, il faut qu'on développe des technos, évidemment, des trucs en rapport avec les énergies renouvelables, le traitement de l'eau, le traitement des déchets, le traitement des sols, je sais pas, le dessalement de l'eau de mer, le recyclage des métaux rares. Je sais pas, il y avait plein de problématiques et une infinité de solutions qui passaient par le développement de technologies, quoi. Du coup, j'ai été longtemps dans ce truc-là de me dire qu'on pouvait répondre à ces grands problèmes environnementaux et climatiques par la technique. Et donc, qu'en tant qu'ingénieur, on était des éléments pour. Enfin, on avait un rôle à jouer pour répondre à ces problèmes, quoi. Donc, ce que je disais, c'est que le discours, c'était voilà, très porté autour de l'innovation, l'entrepreneuriat, la création d'entreprises, développement économique et tout. Finalement, les ingénieurs qu'ils formaient, ça, là, pour moi, c'est un truc qui, finalement, après coup, je me rends compte que c'est vraiment facile à critiquer, quoi. C'est qu'en fait, les ingénieurs, par exemple, dans le domaine de l'environnement qu'ils avaient vocation à former, c'était des personnes où leur rôle, ce serait par exemple, d'améliorer l'efficacité énergétique des procédés de combustion du charbon, quoi, ou de réduire les émissions de polluants en sortie de procédé. Donc ça, c'est typiquement un ingénieur environnement formé par mon école, ou par les écoles, enfin, par beaucoup d'écoles. C'était presque atténuer les impacts environnementaux des industries lourdes, quoi. Donc c'était vu comme ça, beaucoup ça, c'est-à-dire on comprend les procédés de, je sais pas, de production d'énergie, de production de matériaux, de construction de ponts, je sais pas quoi. On analyse un peu tous ces trucs-là et on se dit, ben, nous, en tant qu'ingénieur environnement, parce que moi, j'ai suivi une formation d'environnement. Notre rôle en tant qu'ingénieur environnement, c'est de réduire les impacts environnementaux. Donc en fait, tu te dis, ben, en fait, c'est bien, si on pense que les impacts environnementaux, il faut les réduire, alors nous, en tant qu'ingé, on réduit les impacts environnementaux. Mais le problème qui est évident, qui est posé par ce truc, c'est qu'en fait, notre but, c'est en réduisant les impacts environnementaux, on améliore les performances du procédé, donc le procédé peut produire plus, donc au final, les pollutions, elles sont toujours là, en fait. C'est l'effet rebond, quoi, qui est appliqué à. Peut-être que si on prend un impact de type CO2, peut-être qu'en grammes de CO2 par kilo de merdouille produite, tu vas réduire les grammes de CO2 produits. Mais sauf que tu vas produire plus de merdouille puisque les performances du procédé sont meilleures. Donc, ça, c'est vraiment le biais, enfin, le travers hyper classique qu'on voit dans ce type de métier, quoi. Sur le moment, en fait, c'était comme ça qu'on était formé. C'est, ben, en fait, le développement économique, c'est important. Et on a l'impression que c'est même pas politique, en fait, comme sujet. C'est le développement, c'est jeté comme une évidence tombée du ciel, quoi. L'innovation, c'est important. Le développement économique, c'est important. Et nous, en tant qu'ingé et tout, bon, ben, on va être dans ce truc-là, quoi. Réduire les impacts environnementaux, développer les énergies renouvelables parce que, ben, il faut sortir du pétrole et tout. Si on développe les énergies renouvelables, on va produire plus d'énergie et puis donc ça va aller. Et puis il y a des données comme ça qui tombaient du ciel. C'est la demande en énergie, elle va faire que augmenter, la population va faire que augmenter. Donc il faut qu'on produise plus. Donc il faut, par exemple, typiquement, il y a un discours qu'on entendait beaucoup aussi. C'était la demande en pétrole va augmenter. Donc comme elle va augmenter, il faut qu'on réponde à ce besoin. Et donc pour répondre à ce besoin, il faut qu'on améliore les technologies de forage et d'exploration des hydrocarbures, quoi. Et donc, c'était même pas vu comme étant un problème de dire il faut qu'on aille forer et extraire plus de pétrole. C'était vu comme étant une nécessité parce que la demande allait augmenter, quoi. Donc, le truc était complètement retourné, quoi. Pendant mon cursus, j'avais zéro recul sur ça, quoi. Je m'étais un peu auto-embrigadé dans ce truc de. Enfin, j'étais conscient de ces problématiques de dérèglement climatique et de dégâts environnementaux. Et je m'étais dit, c'est sur ces sujets qu'il faut que je fasse quelque chose. Mais par contre, j'étais pas capable de remettre en question Finalement, la critique, elle n'est pas facile du secteur des énergies renouvelables ou du rôle des ingénieurs dans la réponse qu'on cherche à apporter à ces problématiques parce que, enfin, ce serait plus facile si, par exemple, si j'avais été formé comme étant ingénieur en banque ou ingénieur dans l'armement ou ingénieur dans le pétrole ou je sais pas quoi. Bon, ben là, bien sûr, c'est plus facile de dire ce que je suis en train de faire, la mission que je me confie, elle est pourrie. Donc ça aurait été facile à critiquer. J'ai travaillé pendant 8 ans en tant qu'ingénieur. J'ai été dans les énergies renouvelables, plus précisément dans tout ce qui est biomasse, énergie et biogaz. Et finalement, c'est pas facile de dire les énergies renouvelables, c'est nul en tant que tel, c'est mauvais par essence, quoi. Finalement, c'est plus acceptable comme métier, mais d'un autre côté, c'est pas critiquable tout d'un bloc, quoi. On n'avait pas trop ces discussions entre nous. J'ai l'impression d'ailleurs qu'il n'y avait pas vraiment de réflexion collective. Chacun peut-être réfléchissait un peu à ses sujets dans son coin, mais il n'y avait pas spécialement de réflexion collective entre les élèves, d'une part, et après de discussion à le rôle des ingénieurs entre les profs qui venaient des labos et les élèves. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment quelque chose de répandu. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment eu de déclic où je me suis dit, ouais, non, ce que je suis en train de faire, c'est de la merde. Parce que finalement, j'ai bossé, ouais, comme je disais, j'ai bossé en tant qu'ingé pendant 8 ans. En fait, mon parcours, ça a été. Mon parcours après mon école d'ingé a beaucoup découlé de ce que je disais avant sur la nécessité de développer des technos et les énergies renouvelables pour répondre aux trucs de dérèglement climatique. Donc, j'ai bossé dans des labos pendant 3 ans et demi, 4 ans. Donc, à développer des technologies dans le domaine des énergies renouvelables, plus précisément dans la biomasse énergie, avec ce cheminement un peu en entonnoir, quoi, dérèglement climatique, hausse de la démographie, épuisement des ressources fossiles et tout. Donc, il faut qu'on développe des énergies renouvelables. Donc, bon, bah, il y a beaucoup de trucs dans les énergies renouvelables, donc il faut en choisir une. Donc, dans ce labo, on travaille sur la biomasse. Bah, comme par hasard, on va choisir la biomasse parce qu'il y a plein de trucs qui sont super et tout. Et donc, la biomasse, c'est encore très large. Donc, toi, tu es tout seul à faire ton projet. Donc, tu vas choisir une techno parmi l'éventail de techno, quoi. Et tu vas choisir cette techno-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des financements, parce qu'il y a un machin qui veut faire un truc avec toi. S'il y a de l'argent, bah, vas-y, tu rentres dans ce truc-là, quoi. Donc, il y a ce raisonnement d'entonnoir-là qui, à la limite, couler presque de source, quoi, dans le sens où bah, le raisonnement est pas complètement con, quoi. En tout cas, les éléments qui amènent à ce raisonnement sont pas faux. Donc, personne ne va remettre en cause le dérèglement climatique, personne ne va remettre en cause l'épuisement des ressources fossiles. Et donc, bah, en fait, développer des énergies renouvelables, des technologies, ça paraît pas complètement con, quoi. Donc, en fait, démonter ce raisonnement-là, c'est pas facile, quoi. Et donc ça, j'ai fait ça pendant 4 ans. Je remettais, enfin, j'avais quelques doutes, mais un doute important que j'avais, c'était plus de dire, OK, on développe des technos dans les laboratoires. Mais finalement, le plus important, c'est que ces technologies-là, elles ne restent pas dans les laboratoires et qu'on réussisse à les mettre dans l'industrie, quoi, ou pas dans l'industrie. Je le verbalisais pas comme ça, mais qu'on répande ces technos partout le plus possible et tout, que ça reste pas à l'échelle d'une paillasse, quoi. Donc, après, je me suis dit, il faut que j'aille dans les entreprises privées, les machins, quoi. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait ça pendant 4 ans, dans des boîtes aussi, dans 2 boîtes différentes qui développaient aussi leurs propres technos de production d'énergie verte, quoi. Bah, il y a une des 2 boîtes, qui était dans l'hydrogène, c'était du pipeau de A à Z, ça. Ça, l'hydrogène énergie, bah, dans le monde, j'ai envie de dire, en France, au moins, en tout cas, de ce que j'ai vu, c'est vraiment du pipeau de A à Z, quoi. C'est peut-être au bout d'un certain temps, à la fois avec ce que je voyais en tant qu'ingénieur, et puis aussi la conscience politique que je me forgeais un peu en parallèle de mon métier, quoi. Un peu en parallèle, mais pas, c'était quand même en partie lié, puisque bah, il y avait quand même des choses qui se croisaient. Moi, je m'intéressais beaucoup à titre individuel aux problématiques énergétiques, en gros, quoi. Et donc, évidemment, que c'était très lié à mon métier. Ouais, et c'est en fait, c'est par ce biais-là, petit à petit, que je me suis dit que c'est en critiquant beaucoup les expériences que j'avais dans le privé que finalement, je me suis dit, en fait, ce qu'on fait dans le privé, c'est vraiment de la merde. Et il faut se barrer de là, quoi, en gros, quoi. Pratiquement, ça a été facile. Émotionnellement, ça a été plus dur. Alors, pratiquement, ça a été facile parce que finalement, le dernier poste dans lequel je me suis barré, c'était le dernier poste duquel je me suis barré, c'était il y a 2 ans. Et en fait, j'étais rentré en conflit avec la nouvelle chef qu'on avait mis dans mon service. Parce que, en fait, il y avait des pratiques. Enfin, la gestion de l'entreprise avait changé. Il y avait une volonté d'être beaucoup plus directif, en fait. Et beaucoup moins dans la construction, un peu avec les salariés. Et du coup, ça s'est traduit par la chef qui est arrivée dans mon service et qui a voulu mettre un peu tout le monde au pas, quoi. Moi, ça m'a saoulé. Je suis rentré en conflit assez rapidement avec elle et finalement, j'ai signé une rupture conventionnelle. Donc, ça a été assez rapide. Ça a été un peu douloureux sur le moment parce que rentrer en conflit, c'est jamais facile. Mais après, 3 semaines après que je suis parti, c'était oublié et au final, j'étais content, quoi. En fait, ça a été d'autant plus facile qu'au moment où j'ai signé sur cette rupture conventionnelle, j'étais déjà en parallèle, mais ça j'en ai pas du tout parlé, mais j'étais déjà en parallèle dans des engagés dans des luttes sociales et écologistes. Et du coup, en fait, j'ai eu l'impression que ça ferait d'une pierre deux coups, en fait. À la fois que j'étais plus à l'aise dans cette entreprise-là, que déjà je me posais beaucoup de questions sur le rôle de cette entreprise-là, le rôle de cette industrie-là. Donc je me posais beaucoup de questions, j'avais la possibilité de partir, et en même temps, l'avantage, c'était que du coup, j'aurais beaucoup plus de temps à passer dans ces luttes sociales et écologistes dans lesquelles j'étais un peu impliqué, mais vraiment de façon. Ben, j'avais pas le temps, quoi. Concrètement, je passais 5 ou 10% de mon temps sur ces trucs-là, mais l'essentiel de mon temps, c'était l'entreprise privée. Donc, les deux n'étaient pas vraiment compatibles. Enfin, les deux n'étaient pas compatibles, clairement, quoi. Donc, au final, le fait d'avoir signé cette rupture conventionnelle, ça a fait que j'avais beaucoup plus de temps pour bosser, enfin, pour les orgas militants dans lesquels j'étais, quoi. Psychologiquement, c'était peut-être un peu plus dur parce que pendant un temps, je disais, en fait, dans le monde social, on se définit beaucoup par le métier qu'on exerce. Donc, on dit en général, je suis plus un métier, quoi. C'est quand on rencontre quelqu'un, c'est souvent cette formulation-là, je suis plus un métier. Donc, moi, pendant longtemps, je savais pas. Enfin, il y a eu toute cette période-là où j'ai compris que c'était plus vraiment ça que je voulais faire, c'était plus vraiment ça que je voulais être. Et donc j'avais du mal à utiliser l'expression, enfin j'utilisais encore l'expression je suis ingénieur, parce que c'est socialement acceptable et que ça permet des fois de sortir de discussions un peu reloues, quoi. Mais maintenant je dis plus ça, je dis clairement, voilà, j'ai été ingénieur, maintenant j'ai l'impression que c'est plus mon. Ça fait partie de mon identité de toute évidence, mais c'est plus le métier que j'exerce et c'est plus à ça que je veux contribuer, quoi. Si je prends un peu mon entourage d'ingénieur. Dans cet entourage-là, ça dépend un peu de. Parce qu'il y a d'autres personnes dans cet entourage-là qui ont un peu ouais, des parcours similaires au mien, ou en tout cas qui se posent beaucoup de questions sur leur métier. Donc avec ces personnes-là, c'est facile d'en parler. Avec ma famille, c'est beaucoup plus dur, parce que je sais que mes parents, par exemple, on accorde beaucoup d'importance à la valeur travail d'une part, à la place qu'on occupe dans la société, d'autre part. Et donc je sais qu'avec mes parents, c'est beaucoup plus dur, hein, d'avoir ce. Enfin, c'est un sujet typiquement que j'évite avec eux. Si je peux faire encore un peu semblant, ça m'arrange parce que ça m'évite de rentrer dans un sujet tabou avec eux, quoi. Donc ouais, ce truc-là, il est assez différencié en fonction des gens. Il y a des personnes avec qui je vais être assez à l'aise de dire que je suis plus ingénieur. Et d'autres avec qui, il faut que je filoute un peu, quoi. Mais après, je sais très bien qu'à moyen terme, enfin, c'est pas vraiment tenable comme position, quoi. Il y a des trucs qu'il faut qu'on garde, c'est sûr, des compétences. Il faut qu'on garde des façons de raisonner aussi qu'on pourra recycler, qu'on pourra enfin recycler, ouais, qui pourront être utiles d'une façon ou d'une autre. Mais j'avoue que ouais, c'est un sujet. Qu'est-ce qu'on va faire des ingénieurs ou qu'est-ce qu'on devrait faire d'eux et de nous? Il y a ce truc de l'écologie de fermeture, l'écologie du démantèlement. Donc, en gros, il va falloir que, non pas qu'on reste dans une logique de transformer, qu'on reste dans une logique de produire, mais qu'au contraire, on soit dans une logique de déconstruire, de démanteler, etc. Donc, il y a ce truc-là, mais je ne connais pas très bien ces notions-là. J'avoue que je n'ai pas trop creusé. Mais en tout cas, c'est probable qu'on ait besoin à très court terme d'être dans cette logique-là, d'arrêter de produire et de déconstruire et de démanteler, ça c'est certain. Le truc que je trouve le plus critiquable dans les laboratoires, c'est finalement le positionnement des laboratoires scientifiques publics. Là, je parle plus spécifiquement des laboratoires d'ingénierie, on va dire, hein, pas tout ce qui est sciences sociales, je ne peux pas en parler. Mais finalement, le positionnement des labos publics, moi, la question qu'on pourrait se poser, c'est quoi leur but, en fait? À quoi servent ces laboratoires? Moi, j'imagine qu'il y a une logique d'être dans une. J'imagine qu'il y a une. Que la logique, c'est de mettre en œuvre des politiques publiques et peut-être, je dis bien peut-être, avec une volonté de servir un intérêt général. Et moi, ce que j'ai vu dans les laboratoires, en tout cas, c'est qu'il y avait à chaque fois des gens très compétents. Donc, dans tous les laboratoires par lesquels je suis passé, des gens qui sont très dévoués dans leur travail aussi, qui comptent pas leurs heures et donc qui ont envie, enfin, qui pensent que leur métier a du sens et qui accordent de l'importance au fait que leur métier a du sens, quoi. Et c'est pour ça que, ben, en fait, c'est des gens très compétents, c'est pour ça qu'ils sont dévoués dans leur travail, parce qu'ils et elles pensent que ce qu'ils et elles font va dans le bon sens. Mais c'est là où, à mon avis, il y a un truc qui est assez discutable, et en tout cas que j'ai vu, moi, enfin, ce que j'ai vu, c'est que finalement, la question, c'est notre travail en tant que chercheur, chercheuse, on le met au service de quoi? On le met au service de qui, quoi? Et c'est là que pour moi c'est très discutable parce que finalement ce que j'ai beaucoup vu c'est de se dire ben, c'est finalement presque le même raisonnement que celui que moi enfin le même parcours que celui que moi j'ai suivi c'est qu'en fait si on se dit dans le domaine des énergies renouvelables typiquement si on pense que c'est important de développer des technologies bon ben on développe des technos dans les laboratoires ok. Mais ensuite, il faut les industrialiser, il faut les développer de la façon la plus large possible, parce que c'est des technos super, rendement de ouf, on réduit les émissions de CO2, je ne sais pas quoi. Donc, il faut les développer. Mais qui va les développer? Ça va presque toujours être des grosses entreprises privées, quoi. Tu ne vas pas aller demander à la start-up du coin avec ses deux chaudronniers et son soudeur d'aller développer de façon massive des technos. Non, il faut aller. Prendre des géants, du Veolia, du Suez, du Engie, du EDF, je sais pas quoi, parce que le dérèglement climatique, il attend pas, il faut développer les technos le plus vite possible, sinon on va mourir, quoi. Donc en fait, les technos qui sont développées dans le public, elles sont mises au service d'intérêts privés, quoi. Pour moi, c'est ça le gros problème, quoi, et que dans lequel les labos, finalement, se retrouvent un peu embourbés, quoi. Et en fait, ce phénomène-là, il a été, je pense, en tout cas, accentué autour de 2006-2007 avec une réforme de l'enseignement supérieur là, qui avait commencé à être mise en place. Bah, c'était juste avant que Nicolas Sarkozy devienne président de la République. Et à partir de cette période-là, il y a vraiment eu une accélération des liens entre le privé et le public. Et avec une volonté de travailler et de financer le travail des laboratoires sur projet. Et sur projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, les financeurs publics ont dit aux laboratoires, pour qu'on vous donne de l'argent, il faut que vous veniez nous voir avec un projet, un but. C'est quoi la problématique que vous identifiez? Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Et si vous êtes fort, si votre truc nous convainc, alors on va vous donner de l'argent, quoi. Et donc, en fait, les laboratoires ont été de plus en plus dans une logique bah, d'aller chercher de l'argent. Donc, avec toutes les dérives qu'il y a eu, qui, qui, avec toutes les dérives possibles, bah, avec les aspects administratifs de, en fait, les chercheurs, et il et elle sont mieux placés que moi pour le raconter, mais enfin, ils le racontent tout le temps. De toute façon, c'est de dire, nous maintenant, on passe notre temps à faire de la paperasse, quoi, et d'aller chercher de l'argent finalement. Les labos tombent aussi dans ce truc de il faut qu'on aille chercher des entreprises privées parce que en fait c'est ce que nous demandent les financeurs publics. Moi dans le projet sur lequel je bossais, franchement c'était un peu caricatural de ce point de vue-là, il y avait trois laboratoires donc ils se sont dit on va combiner nos compétences de laboratoire pour faire un truc, développer une technologie super de production d'énergie quoi. Le problème c'est que pour pouvoir trouver les financements, ils avaient besoin d'un industriel. Alors pourquoi? Parce que s'il n'y a pas d'industriel, le financeur se dit ça sert à rien votre techno, quoi. Personne ne va la mettre sur le marché, quoi. Donc on est allé chercher un industriel. Mais l'industriel, lui, il n'en avait rien à foutre de la techno. Lui, on lui dit ça, bon, On a dû, j'imagine, le convaincre, parce que j'étais pas encore dans le projet à ce moment-là, le convaincre que c'était un bon plan de venir se magouiller dans notre projet. Pourquoi? Parce que bah, il y a de l'argent public. Et pourquoi? Parce que l'industriel, il n'aura pas grand-chose à faire. En gros, c'est les trois labos qui vont faire 99% du travail. Et puis lui, il va se retrouver avec une techno plus ou moins aboutie sur son étagère. Et ce sera à prendre ou à laisser, quoi. Si ça l'intéresse, bon, bah, il en profite. Si c'est de la merde, bon, bah, il dit, OK, moi, je prends juste l'argent. J'ai dépensé un peu d'argent pour évaluation environnementale de la techno, je sais pas quoi. Mais en gros, il a rien fait pendant 3 ans et c'est les labos qui ont tout fait, quoi. Et les laboratoires sont OK avec ce truc, quoi. Ils sont OK de dire, ben, nous, on développe des trucs au service des entreprises privées, quoi. Maintenant, enfin, c'est un truc que j'ai l'impression qui est complètement OK. Enfin, c'est acquis dans les laboratoires. Les laboratoires deviennent quasiment des fournisseurs pour les entreprises privées, quoi. Alors, c'est à la fois des fournisseurs de technologie, ce que je viens de développer, mais c'est aussi des fournisseurs de personnel, quoi. C'est-à-dire qu'on va former des thésards, donc qui vont devenir des ingénieurs-chercheurs, quoi. Ces ingénieurs-chercheurs, ils vont pas forcément trouver de débouchés professionnels dans les laboratoires. Mais par contre, les entreprises privées, c'est intéressant pour elles, parce qu'ils ont des compétences un peu spéciales et tout, qui vont faire que bah, ils peuvent aller bosser dans le privé. Donc les laboratoires forment des bataillons de chercheurs, les universités aussi. Et finalement, voilà, moi j'ai l'impression que les laboratoires, ça devient des fournisseurs du privé, quoi. Est-ce que vraiment les laboratoires répondent toujours à leur mission de service public, de servir l'intérêt général ou je sais pas quoi? Est-ce que déjà ces laboratoires sont dans cette position-là ou ont ça en tête, j'en sais rien, j'espère. Mais est-ce que ce qu'ils font vont dans cette optique-là, pour moi, c'est zéro, quoi. C'est zéro de A à Z, quoi. Mais ben, pour le moment, c'est comme ça. En fait, si on ne sort pas du métier d'ingénieur, si on ne quitte pas ce truc, c'est parce qu'on ne sait pas trop sur quoi on va atterrir derrière, quoi. Il y a un peu cette peur de l'inconnu, de se dire, oui, mais finalement, toi, tu fais quoi maintenant, une fois que tu es parti, quoi. Mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, il faudrait prendre le truc dans l'autre sens. C'est-à-dire que pour pouvoir envisager autre chose que le travail, autre chose que l'emploi, autre chose que le salariat, autre chose que le métier d'ingénieur, ben, il faut du temps. Et que ce temps, par définition, tu ne peux pas l'avoir si tu es à temps plein en train de travailler, en train de concentrer toute ton attention sur la conception de ta prochaine machine pour ton patron, quoi. Donc pour pouvoir avoir ce temps de réfléchir à ce que tu pourrais faire d'autre et ce qui correspondrait peut-être plus à ce que tu as à tes aspirations personnelles, à ce qui est important pour toi, ben en fait, il faut d'abord quitter ce taf, quoi, pour pouvoir te libérer du temps. Et donc il faut peut-être accepter en fait de lâcher en gros la branche à laquelle tu te tiens avant d'en tenir une autre, parce que tu sais que la branche à laquelle tu te tiens, elle est en train de moisir, quoi, que c'est de la merde, quoi. Et il faut que tu le fasses, même si tu sais pas, même si tu te tiens à rien, parce que en fait, la condition pour pouvoir te raccrocher à une branche, c'est d'abord de lâcher la première, quoi. Et sinon, pourquoi? Parce qu'en fait, t'as pas le temps de réfléchir à ça, en fait. Tu es vraiment pris dans le flot du quotidien. Et ton patron, il te demande en fait, tu subordonnes l'usage de ton temps à ton patron. C'est ton patron qui décide qu'est-ce que tu vas faire de toute ta journée, à quoi tu vas dédier ton cerveau, quoi. Donc, vu que tu dédies ton cerveau à ce que, en gros, à enrichir ton patron, bah, tu peux pas le dédier à des trucs qui seraient plus j'allais dire productif, à des trucs qui auraient plus de sens, quoi, en gros. Donc, pour pouvoir envisager autre chose que le fait de travailler, il faut se barrer et pour pouvoir se libérer du temps, quoi.
Pour plus d'informations sur les déserteuses, retrouvez-nous sur notre site internet déserteuse.noblog.org et écrivez-nous à l'adresse les déserts, LESDESERT -du 6 heureuse au pluriel, @riseup.net.